Les acteurs de la pierre papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de pierrepapier.fr.
Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui on reçoit Laurent Gauville. Bonjour Laurent.
Bonjour Frédéric.
Alors je rappelle, vous êtes directeur général de Gestion 21, gestionnaire d'actifs financiers fondé en 2007 autour d'une approche value, mais aussi et surtout un spécialiste de l'immobilier coté puisque vous co-gérez le fonds immobilier 21 investi en foncière européenne. Alors, première question sur la conjoncture boursière. Depuis l'annonce de l'élection de Donald Trump, le segment des foncières cotées européennes a dévissé d'une dizaine de pourcents. Est-ce que ça veut dire que l'immobilier n'est pas Trump compatible?
Bonjour, bonjour Frédéric. Trump, immobilier compatible? Bah écoutez, quand on regarde son CV, on peut penser qu'il l'est. Le paradoxe un petit peu de la situation, c'est qu'il a fait une campagne sur l'inflation, ou en tout cas sur le combat de l'inflation, et aujourd'hui, son élection est associée à une hausse de l'inflation. Alors, il est évident que sa programmatique est inflationniste.
C'est ça qui explique la baisse du secteur foncier en Europe.
Alors, c'est une crainte. Vous savez, la particularité de l'Europe, c'est d'être toujours plus inquiet que les autres. Hein. Quand on regarde sur le marché US, les foncières américaines REIT, hein, c'est-à-dire l'équivalent des foncières européennes immobilières, n'a pas décroché du tout. Nous, on a tendance, comme toujours, hein, j'allais dire, à être un peu plus inquiet que les autres. Ça a un petit peu, été impacté par cette élection.
Mais ça veut dire qu'on en est où aujourd'hui sur le segment des foncières européennes? Si on se place sur un an glissant, par exemple, on est en positif, on est en négatif?
Alors, on est en positif et on est sur 10-15% sur un an glissant, ce qui est, je crois, très satisfaisant, peut-être un peu décevant pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps et qui considèrent que... entendre notre discours sur le fort potentiel de rattrapage du secteur. Mais malgré tout, c'est pas si mal que ça.
Alors justement, les foncières, elles ont publié pratiquement tous leurs résultats trimestriels. Qu'est-ce qu'il faut en penser, en retenir en termes de valorisation des actifs sous-jacents?
Les publications, qu'est-ce qu'il faut en penser? Que du bon. Pourquoi? Alors, si on regarde les deux éléments, hein, compte de résultat et bilan. Alors, au niveau du compte de résultat, on a des croissances très, très importantes, hein, de 3, 4, voire 5% en fonction des typologies d'actifs. Bon, le bureau est un petit peu à part, en tout cas le bureau périphérique, mais sur les autres typologies d'actifs, hein, par typologie, j'entends le retail, j'entends la logistique, j'entends le logement, on a des croissances très, très élevées. Et également, on a, et ça c'est le fait, je pense, c'est le tournant hein, à mes yeux, une stabilisation des valeurs d'actifs. Vous savez que depuis un an et demi, deux ans, les valeurs d'actifs baissent et les publications du semestre et même celles du T3 qui ont lieu actuellement confirment cette tendance de stabilisation des valeurs d'actifs, ce qui est vraiment un tournant. Hein. Alors pourquoi un tournant? Tout simplement parce que stabilisation des valeurs d'actifs, ça veut dire bilan plus oxygéné, ça veut dire donc une forte réduction des risques. Et le paradoxe, c'est que aujourd'hui, on paye quasiment le même prix que avant cette excellente annonce de stabilisation des valeurs d'actifs.
D'accord, donc ça veut dire que les courses sont censées, même avec la décote dont on parlera tout à l'heure, ça veut dire que les courses sont censées suivre quelque part ces valeurs d'actifs. Alors, ça veut dire que tous ces éléments font que vous restez, parce que je sais que c'est votre credo, vous êtes vraiment un fervent partisan du placement foncier coté. Pourquoi est-ce que c'est un placement plus intéressant que d'autres?
Déjà, on peut partir du constat, un constat conjoncturel et un constat structurel. Le constat conjoncturel, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus rentable que l'immobilier coté. Si vous voulez faire une allocation, alors pourquoi? Parce que le secteur décote. Décote, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on achète des actifs immobiliers en solde. Donc, la rentabilité, bien évidemment, est bonifiée par cette décote. Et donc, l'équation, c'est qu'aujourd'hui, c'est la forme la plus rentable et l'immobilier coté. Alors. Ça, c'est un atout conjoncturel, mais il ne faut pas oublier les atouts structurels. Hein. Je pense que quand même, c'est important. L'investissement immobilier, c'est un temps long, et donc le structurel est plus important même que le conjoncturel. Sur le structurel, acheter de l'immobilier coté, c'est acheter de l'immobilier détenu en portefeuille. On aime beaucoup les portefeuilles. Géré par des équipes, on aime beaucoup l'humain, sur des savoir-faire précis, et un reporting de qualité. Et ça se traduit d'ailleurs par des taux d'occupation qui sont structurellement supérieurs à ceux que l'on peut observer sur les marchés directs. Donc ça, c'est vraiment les atouts structurels. Comme disait mon ancien président, vous achetez un immeuble, c'est une dépense. Vous achetez un portefeuille d'immeubles avec des équipes, c'est un investissement. Ben, ça, c'est vraiment le cahier des charges structurelles de l'immobilier coté. Vous rajoutez aujourd'hui un atout conjoncturel, c'est que ces atouts structurels, j'ai même pas parlé de la liquidité, que l'on paye pas aujourd'hui, et je pense que la liquidité...
C'est un vrai sujet pourtant, oui.
À la liquidité, j'adore, parce que la liquidité, c'est quelque chose qui en fait... On sait pas quand on en a besoin, et donc on doit avoir en permanence de la considération pour cet élément-là. Et je dois reconnaître que la liquidité, c'était un petit peu le grand oublié des 5 dernières années. Et aujourd'hui, l'immobilier coté permet d'acheter cette liquidité sans la payer. Donc c'est exceptionnel, donc c'est vraiment l'opportunité d'avoir un portefeuille avec cette liquidité qui est vraiment unique, hein, puisque les autres formes de détention, malheureusement, ne répondent pas à ce qu'est des charges de liquidité.
Et l'aspect dette qu'on reproche, qui fait que la sensibilité des foncières à la variation des taux est importante, c'est un aspect positif ou un aspect négatif aujourd'hui ?
Ah, vous savez, c'est toujours le propre de l'Europe, c'est peut-être plus pessimiste que tous les autres. Alors c'est vrai, il y a 2 ans, qu'est-ce que j'ai pas entendu, mais bon, je m'y habitue, parce qu'il y a 4 ans, on me disait que les centres commerciaux allaient mourir. Bon, donc j'ai l'habitude de ce pessimisme ambiant qui, pour le coup, je n'aimerais pas structurel, mais malheureusement est structurel. Alors, qu'est-ce qu'on disait ? Bon, on disait que ça allait être l'effondrement. C'est quoi l'impact de la hausse des taux qu'on a connue sur les 2 dernières années ? C'est au niveau du compte de résultat, la confirmation que l'indexation, hein, vous savez, donc l'indexation qui est un proxy, ou l'inflation qui est un proxy de l'indexation, est un papier buvard de la hausse des taux. C'est-à-dire que ce que l'on a gagné en supplément de loyer grâce à l'inflation, on l'a redonné aux banquiers et le solde, ça fait zéro. Donc les cash flows sont restés relativement stables à périmètre constant. Sur le bilan, c'est un peu plus complexe parce qu'effectivement, cette hausse des taux est intervenue à un moment où les primes de risque vivaient l'héritage de taux ridiculement bas et donc sont venues impacter. On a eu la nécessité de reconstituer cette prime de risque. On en est là aujourd'hui, on a une prime de risque reconstituée, on a cette capacité avec des taux d'occupation élevés, parce que ce diagnostic sur le papier buvard de l'inflation, ça ne fonctionne que sur les immeubles occupés. Mais les taux d'occupation étant très élevés, et donc même un scénario, je reviens presque à la première question, mais de hausse des taux, on n'aurait pas du tout les mêmes impacts, on aurait certainement les mêmes sur le compte de résultat, mais sur le bilan, il serait beaucoup moins impactant, ce serait-ce que parce qu'on a reconstitué la prime de risque.
D'accord. Alors on va parler maintenant précisément justement du fonds immobilier 21. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement son credo de gestion et la composition actuelle de son portefeuille ?
Alors, le portefeuille immobilier 21 est un fonds de foncière cotée de la zone euro. Ça, c'est le premier cahier des charges. Le deuxième, son mode de gestion, c'est un gestion value. Vous avez bien entendu, c'est pas un gros mot pour nous, la value. Mmh. On pratique ça depuis 25 ans. J'ai la faiblesse de penser que c'est très adapté à ce secteur, et d'ailleurs à beaucoup de secteurs, parce qu'en permanence, on nous vend plein de secteurs croissance, mais au bout du compte, il y a très peu de secteurs croissance. Il y a des secteurs qui répondent tout à fait au cahier des charges value, et l'immobilier en est un. Alors pourquoi ? Mais tout simplement parce que l'immobilier adresse des besoins de base. Besoin de loger des gens, besoin de stocker des marchandises, besoin de présenter des produits, besoin d'accueillir des gens dans les bureaux.
Donc c'est la composition de vos portefeuilles, du retail, de la logistique et du résidentiel, c'est ça ?
Oui. Alors aujourd'hui, dans la construction du portefeuille, on a 3/3. On a un... Il faut bien comprendre que le métier d'analyste gérant, c'est le métier d'analyste et de gérant. C'est pas l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre. Et donc il y a un travail qui est d'essayer d'apporter de la valeur ajoutée aux briques qui constituent le portefeuille, en espérant que l'addition est supérieure à la somme des unités. Donc on a effectivement 3/3. Le premier tiers est un tiers retail, d'actifs que l'on nomme bien. On a même fait un fonds dédié au retail qui s'appelle OCC21 et qui marche très très bien. La deuxième pierre qui fait également un tiers, c'est le résidentiel allemand. Et la troisième, c'est un autre tiers sur lequel on a un œil qui est plus de stock picking que même d'allocation, qui est constitué à peu près de 10% de bureaux, 10% de logistique et 10% de santé. Et ces trois briques, je dirais, je veux pas faire le maçon aujourd'hui, mais cohabitent très bien ensemble et font une densité du portefeuille, une résistance et une valeur ajoutée à chacun des éléments.
Alors si on veut vous poser la question, je sais que vous aimez pas, mais si on vous demandait de choisir 3 valeurs, 3 foncières cotées aujourd'hui, vous adressez à un auditeur qui veut investir en bourse directement, vous lui conseilleriez quelle valeur ?
Écoutez Frédéric, je vous ai dit, nous on adore le portefeuille. On aime les portefeuilles. Et donc,
il faut acheter immobilier 21, j'ai bien compris. Oui, mais à part ça,
il faut acheter des portefeuilles. Ça, c'est la première idée. Mais effectivement, bon, s'il y avait alors trois titres, c'est difficile de construire un portefeuille à partir de trois titres. Vous savez que la théorie suppose plutôt un nombre de titres supérieur à 25, voire 30. Mais je vais essayer de les trouver dans différentes typologies d'actifs, du coup, pour essayer de trouver un intérêt à la décorrélation. Alors, un premier nom, Unibail, hein, le plus connu. On commence peut-être par le phare du secteur, qui s'est un peu éteint en 2020, hein, il faut le reconnaître, qui a eu à gérer deux problèmes. Et vous savez que gérer deux problèmes, c'est toujours compliqué. Un problème, ça va. Deux problèmes, ça va plus. Donc, il y avait un problème d'endettement et un problème d'exploitation. Alors, depuis, Unibail a retrouvé, grâce à son exploitation, un peu d'oxygène et a pu gérer sereinement ces problèmes d'endettement. La preuve en est, c'est qu'ils ont réinitié une politique de distribution.
Donc, alors, ça, c'est pour le retail. Je suis obligé de vous couper parce qu'on arrive bientôt au terme. Donc, retail, Unibail, ensuite...
Un acteur diversifié, Covivio, dont on apprécie... L'équipe est très ancienne. Christophe Kuhlmann est l'un des plus vieux dirigeants du secteur. Et on a pu donc voir dans ses actes de gestion, sur ces 25 dernières années, une grande capacité à répondre au secteur. Donc Covivio, qui est un acteur diversifié.
Et une troisième dans le secteur que vous voulez.
CTP. Alors CTP, c'est la logistique. C'est une logistique avec une capacité à mettre en œuvre ses réserves foncières. Donc il y a un métier également de développeur intégré. Donc c'est un acteur très intéressant également de la logistique.
Il nous reste 30 secondes. Dernière question, piégeuse évidemment pour un gérant. Est-ce qu'on peut donner une perspective de performance sur le segment des foncières cotées en 2024 et éventuellement sur le fonds immobilier 21?
Alors, vous savez que nous, on aime la durée. Donc, les perspectives de performance, notre durée de placement recommandée, c'est 5 ans. Donc, les perspectives à 5 ans, c'est quoi? Différents scénarios. Le premier scénario, c'est de dire pas de croissance, pas de réduction de la décote. Donc, un scénario qui n'est pas le scénario central, fort heureusement, mais qui, à ce moment-là, se situe sur le rendement en cash flow, qui est aujourd'hui de l'ordre de 8,5-9%. Ça, c'est, je dirais, l'échelle basse. Un scénario plus central, c'est de considérer qu'il va y avoir un petit peu de croissance. Hein. La croissance du secteur, je vous l'ai dit, ça répond à un besoin de base, donc c'est le PIB en valeur, donc on a à peu près 3% de croissance long terme. Et à ce moment-là, si même on considère que, au fur et à mesure que les valeurs d'actifs vont témoigner d'une stabilité, voire d'une légère hausse, une réduction de la décote, et là on se trouve plutôt dans l'univers des 12-15%. Et puis un scénario, alors là, du sombre, hein, c'est-à-dire se dire, bon, sur les 25 ans, on prend les deux points bas, c'est-à-dire mars 2020, hein, on sait pourquoi, la crise du subprime, donc fin 2018, hein, mars 2009, pour obtenir une performance à 5 ans à zéro, il faudrait revenir sur des multiples de ce niveau, voire plus dégradés que ces deux périodes qui sont quand même des épiphénomènes, il faut l'espérer.
Bon, on va garder les scénarios plus optimistes. Laurent Gouaville, merci.
Merci Frédéric pour votre optimisme.
Les acteurs de la pierre papier, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Immo et sur toutes les plateformes de streaming.